Les Lions d'or.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Ambre, je suis passionnée de journalisme et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour Opération Podcast. Je suis danseuse depuis l'âge de mes 5 ans, très fan, voire même fan iconique de Pierre Garnier, de la Casa de Papel, etc.
Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans, je suis fan des Blackpink, c'est de la K-pop, je vais faire de la danse l'année prochaine.
Bonjour, moi c'est Maxime, je suis un comédien depuis l'âge de mes 8 ans. Mon groupe préféré c'est Radiohead.
Ouais, moi ce que j'adore... c'est le rap. Le rap, le vieux rap. Voilà. Le rap de Marseille. Voilà, il n'y a que ça qui compte. De toute façon, c'est Marseille. Moi, je soutiens tout ce qui est de Marseille. Moi, je veux le rap. Voilà, à part du.
Comme vous l'aurez compris, Charlie est un grand fan de rap. Mais est-ce que le rap est vraiment politisé? Est-il de droite ou de gauche? Nous, vous avons posé la question.
Pour vous, le rap est-il de droite ou plutôt de gauche?
Pour moi, je pense que le rap est plutôt de gauche parce que dans un contexte anglais et américain, je l'associe à de grandes villes. En général, c'est vite tendance à voter pour la gauche.
Quelle valeur représente le rap ?
Pour moi, je dirais en général qu'il s'agit des luttes contre l'adversité qui s'expriment d'une manière plutôt viscérale, mais dans un contexte, je dirais, plutôt urbain.
On sait que principalement dans le rap, c'est beaucoup de rappeurs racisés. Bon, moi, je suis une drague racisée, donc je peux pas mettre d'en parler. Et on sait très bien que le racisme, c'est principalement de droite et de l'extrême droite, même, je dirais même, notamment avec le Rassemblement National. Fuck le Rassemblement National. Excusez-moi, je peux me permettre de le dire, c'est quoi ? Oui, ok, super, ça marche. Bon, bah, c'est très bien. Et oui, absolument, oui, je me sens concerné totalement. Et je suis très woke. Déjà, je suis drag, donc forcément, le drag, c'est politique. Et si on est drag, on est forcément politisé. Et si on est forcément politisé dans le drag, on est forcément de gauche. Si on veut parler du rap à proprement parler, moi, je pense notamment à NTM ou à IAM, c'est des anciens groupes des années 90. Ils sont très gauchos. Notamment Diams aussi, on peut parler de Diams également aussi. Rappeuse hyper connue en France, et je pense que c'est l'une des rappeuses la plus connue. Diams était très gaucho. On a vu le montée du racisme, notamment quand elle est sortie avec son voile d'une mosquée qui a été pris en paparazzade dans Voici, je crois que c'était des années 2000, je crois, il me semble, et ça fait scandale, et tous les racistes de France se sont mis contre elle. Je pense que c'est vraiment grave en France de laisser le RN et l'extrême droite en pole position.
Est-ce que le texte est plus important que le son dans le rap, ou vous pensez qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux?
Je pense que le son, ça n'a pas vraiment trop son importance. Je pense que c'est le vécu du rappeur. Je pense que ça dépend d'où il vient, surtout aussi. Un rappeur qui va... Enfin, moi, je viens d'une cité plus ou moins. Je pense que les rappeurs qui viennent d'une cité, ils ont plus ou moins d'impact sur les gens qui viennent d'une cité eux-mêmes. Je pense que peu importe, je pense le type de rap, on s'en fout. Je pense que c'est le rappeur en lui-même et ce qu'il exprime qui touche la personne particulièrement et le vécu que le rappeur a. Je pense que ça peut nous toucher personnellement et si on provient d'une même on va dire classe sociale, je pense que là, ça peut toucher beaucoup plus. Oui.
De droite, femme soumise ou à poil, c'est du rap de droite, corruption, copinage, c'est du rap.
On passe à un tout autre sujet, les transports au sein d'Arras. Que pensez-vous des transports en commun sur Arras?
Alors, j'ai beau ne pas les utiliser plus que ça, je trouve quand même assez pratique, notamment la bulle 1 qui sert à tout le monde pour faire le centre, enfin du centre-ville au centre commercial principalement. Après, pour ce qui est de la périphérie aussi, je trouve que c'est quand même assez bien desservi. Fut un temps, j'allais régulièrement à Tilloy et Montflaine. Je ne rappelle plus du nom de la ligne, mais en tout cas, c'est pas mal bien desservi. Oui.
Bah, je pense que les transports en commun sur Arras sont bien, ils sont bien organisés. En tout cas, les lignes vont un peu partout. Surtout la ligne 1, où elle peut aller jusqu'à Auchan, Ville, la ligne 6 qui va jusqu'à Tilloy. Je trouve que c'est quand même bien desservi.
Je trouve que Arras est plutôt bien desservi. Il y a quand même beaucoup de bus qui vont d'un centre commercial à un autre, mais Arras reste quand même bien desservi. Il y a la citadine qui est gratuite au centre-ville. Alors c'est vrai que c'est un regret quand même qu'elle soit qu'au centre-ville et qu'elle n'aille pas dans les quartiers ouest, ce qui pourrait aider les personnes qui sont là-bas pour leurs papiers administratifs par exemple, ou faire des courses, venir plus souvent au centre-ville, quoi.
Que penserez-vous de mettre les transports entièrement gratuits sur Arras ?
Je trouve que c'est vraiment une super idée. On a vu quelques villes où ça s'est mis en place et où ça s'est très bien passé. Je pense à Rouen, si je ne dis pas de bêtises. Et récemment, c'est les lignes Tadao autour de Lens, Hénin-Beaumont, tout ça, qui sont passés en transport gratuit. Et ben, du coup, de manière tout à fait logique, il y a eu plus d'utilisation du coup, des transports en commun, ça devient accessible pour tous. Et je trouve que c'est très intéressant.
Bah, je pense que ce serait une super idée, parce que le seul transport gratuit, c'est la citadine, mais la citadine, elle est surtout dans le centre-ville. Et du coup, permettre aux autres personnes, par exemple à Tillois ou encore ou à d'autres villes en périphérie d'Arras, de pouvoir aller sur Arras gratuitement, ça serait vraiment une bonne idée.
Je sais que ça se fait beaucoup à Rennes, pas qu'à Rennes, hein, y a d'autres villes qui le font et ça a l'air de fonctionner. Si c'est étendu à toute la CUA, donc à toutes les villes autour d'Arras, moi je trouve que c'est très bien, pourquoi pas. Ce serait une très très bonne chose. Je prendrais plus souvent le bus et je prendrais beaucoup moins ma voiture.
Notre invité du jour a peut-être utilisé les transports en commun pour nous rendre visite. Écoutons son interview très intéressante.
Alors moi je m'appelle Mélissandre Fortumeau, je suis comédienne, actrice de profession. Je suis aussi co-directrice avec Francky Defonte de la compagnie Avec Vue sur la Mer, une compagnie professionnelle de théâtre basée à Arras. Et je suis également depuis septembre présidente de l'Office culturel d'Arras.
As-tu dès l'enfance ou l'adolescence une vocation pour le milieu artistique ?
C'est arrivé assez tôt. Tôt au collège en fait, c'est grâce à une prof de français, puis la prof de français a organisé le mercredi un atelier théâtre, le mercredi après-midi auquel j'ai participé. Et puis ça s'est confirmé en troisième, toujours en cours de français, on a fait une scène de Uburoi d'Alfred Jarry qui commence par merdre. Et là je me suis dit waouh, le théâtre c'est incroyable, on a le droit de dire des gros mots, c'est un espace de liberté, on peut s'exprimer et on est écouté. Et je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma mère, maman, je veux être comédienne, je veux faire du théâtre. Et là, elle me dit, oui, bon, écoute, tu passes ton bac et puis on verra. Et en fait, j'ai gardé cette idée-là en tête, j'ai fait le nécessaire pour devenir comédienne.
Quel est ton parcours scolaire, étudiant, puis professionnel, la continuité en matière de chronologie ?
Donc, j'ai passé un bac option théâtre. Et donc, après, on m'a orientée, on m'a dit, il faut que tu fasses un conservatoire, une école. Mes parents m'ont dit oui, mais fais des études quand même, c'est pas un métier facile, c'est précaire, c'est dangereux. Enfin, ils avaient plein de clichés aussi sur ce travail. Donc je suis venue à Arras, j'ai fait une licence art du spectacle et en même temps je faisais le conservatoire d'Arras. Ensuite j'ai fait la classe professionnelle du conservatoire de Lille. Et après, ça s'est enchaîné assez facilement. J'ai eu la chance d'être engagée par mon ancien professeur de conservatoire, Thomas Génari, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, comme on dit. J'ai fait mes premières armes, mes premières pièces de théâtre comme ça avec Thomas. Et puis après, de fil en aiguille, on est repéré, on est vu par d'autres metteurs en scène. Et puis c'est comme ça que ça commence, on passe des castings, des auditions. Et puis voilà, ça fait à peu près 18 ans, je crois, maintenant que je fais ce travail.
Moi, je vais parler un peu de mon film préféré. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulé le tournage du film qui est maintenant un grand succès, L'Amour Ouf, qui a été réalisé par Gilles Lellouche ?
Ça a été une belle expérience. Le cinéma, c'est pas comme la télé où la télé, ça va très très vite. Le cinéma, il y a plus de moyens, donc tout le monde prend le temps de faire des belles choses. Il faut savoir que j'ai quand même passé 5 castings pour réussir à décrocher un tout petit rôle dans ce film. Et donc après ces 5 castings, j'en ai passé un dernier pour faire Maman Jackie, la femme d'Alain Chabat. Et donc je sais pas si tu te souviens de la scène, donc moi je passe un casting où quand même, faut le savoir, je parle, etc. Et après quand je me suis retrouvée dans la salle de cinéma et j'ai vu que le texte avait été largement coupé parce que le film était trop long et qu'il avait fait beaucoup 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 de coupes, j'étais un peu déçue, mais bon voilà, c'est quand même une belle expérience parce que j'ai tourné un accident sur fond vert avec une équipe incroyable, avec un coach sportif pour pas que je me blesse parce qu'il y avait une cascade avec la voiture et c'est moi qui faisais la cascade. Et Gilles Lellouche me dit ça va, t'es prête pour la cascade? Et là je commence à avoir peur, je dis bah comment ça la cascade? Bah oui, l'accident c'est toi qui vas la faire, la cascade. Je dis ah ok, d'accord. En fait ça va, il y avait rien de dangereux, mais ils sont très très prévenant. Je me souviens, je suis arrivée sur le tournage, j'étais hyper stressée d'être avec une si grande équipe. Et Gilles Lelouch est arrivé, il m'a serré la main, il m'a dit merci d'avoir accepté le rôle. Bah non, merci à vous de m'avoir choisi. Voilà, donc c'était vraiment une très 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 belle journée avec une équipe formidable. J'ai pas eu la chance de rencontrer les grands acteurs parce que ce jour-là, ils tournaient pas avec moi, mais j'en garde un très beau souvenir.
Pour finir, y a-t-il une forte compétition dans le milieu du cinéma entre acteurs et comment gères-tu la pression ?
La compétition, oui, oui, il y a, je la ressens pas, mais elle est là. On est très nombreux en fait. Il y a énormément de personnes qui souhaitent faire ce métier d'actrice et il y a peu d'élus en fait. Au conservatoire, on est une vingtaine et au final, on est une ou deux à faire encore ce métier après. C'est pas facile. Après, la pression. C'est pas pareil à 20 ans, et là j'approche la quarantaine. À 20 ans, je rentrais d'un casting, je pleurais, je l'avais pas. Je me mettais moi-même la pression, en fait, parce qu'on a envie de réussir. À 40 ans, on s'en fiche, en fait. J'ai fait autre chose. Je vais à un casting, je suis contente d'y aller, mais si je suis pas prise, je m'en fiche, parce que je sais que j'ai le théâtre, je sais que j'ai l'office culturel, je sais que je fais du doublage, je fais plein de choses. Je donne des cours aussi. Et en fait, j'ai diversifié mon activité de comédienne, ce qui fait que je m'épanouis pleinement à d'autres endroits. Je n'attends pas le cinéma ou la télé. Et en plus, pour tout vous dire, c'est pas là où on s'amuse le plus parce que justement il y a la pression de toutes les équipes parce que ça coûte très très cher le cinéma et la télé, donc tout le monde a la pression et donc une journée de tournage c'est stressant alors que moi, j'ai pas fait ce métier pour me stresser mais plutôt pour m'amuser donc.
Dans notre monde, la compétition prend une place de plus en plus importante, que ce soit avec le sport, par exemple avec les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football et le tournoi Tennis Nation au rugby. Le domaine artistique, comme le chant, avec des émissions comme The Voice, le théâtre avec parfois des castings à passer pour avoir un rôle, ou la danse avec Danse avec les Stars. La compétition s'immisce même dans les études avec Parcoursup, où notre dossier est mis en compétition avec d'autres dossiers pour intégrer les universités que l'on souhaite. Mais qu'est-ce qui en découle de toutes ces compétitions ? Beaucoup de pression, parfois même beaucoup trop. Que ce soit dans le sport, où la pression peut nous pousser à nous blesser en allant au-delà de nos limites. Ensuite, dans les études, où la compétition peut pousser certains à se mettre tellement la pression qu'ils en font un burn-out. Et pourquoi pas la solidarité à la place de la compétition ? Pourquoi pas être unis au lieu d'être séparés ? C'est vrai, quand on y réfléchit, la compétition a beaucoup de points négatifs, alors que être tous solidaires à une cause commune ne serait-il pas meilleur ? C'est pas si simple, car être tous unis comme ça, c'est merveilleux. Mais est-ce que c'est possible ? En réalité, un des moments où on est le plus unis, c'est avec la compétition. Comme avec les Coupes du Monde, où tout un pays est uni sous une même bannière pour pouvoir les voir gagner. Pour conclure, la compétition et la solidarité ne sont pas des concepts que tout oppose. Mais à l'inverse, ce sont des concepts qui se complètent mutuellement.
L'Assemblée nationale a examiné la proposition de loi instaurant le droit de vote dès 16 ans et l'inscription automatique sur les listes électorales. Effectivement, depuis quelques années, certains parlementaires veulent qu'en France, le droit de vote devienne possible dès 16 ans au lieu de 18 ans. Comme le rappelle la proposition de loi numéro 3294 déposée le mardi 25 août 2020, on y expose des motifs tels que « La première disposition de cette proposition vise à abaisser l'âge de vote de 18 ans à 16 ans. Cette disposition concernerait environ 1 500 000 jeunes âgés de 16 à 17 ans. La dernière modification de l'âge de la majorité électorale date de 1974. Le président de la République de l'époque, M. Valéry Giscard d'Estaing, avait à l'époque abaissé l'âge de vote de 20 ans à 18 ans. Cette réforme avait été justifiée par la volonté de combler le retard vis-à-vis de nos voisins européens. Elle répondait aussi à une demande générationnelle exprimée dans les mouvements étudiants de mai 1968. Aujourd'hui, plusieurs pays en Europe ont abaissé l'âge de vote à 16 ans. C'est le cas en Autriche et à Malte. En Allemagne, en Écosse et en Estonie, le droit de vote dès l'âge de 16 ans est ouvert aux élections locales. D'autres pays dans le monde l'autorisent également, tels que le Brésil, l'Argentine, le Nicaragua, Cuba ou encore la Slovénie. D'ailleurs, les jeunes sont comme les aînés, engagés politiquement.
Maintenant, c'est la question du droit de vote à 16 ans. Aurore Pajot, qui était présente sur la liste du Printemps Arrageois pour les élections municipales de 2026, va nous répondre et donner son avis.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me positionne sur le droit de vote à 16 ans. Je suis pour le droit de vote à 16 ans. Je pense que c'est une mesure politique très intéressante pour éduquer les citoyens le plus tôt possible à la démocratie. L'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on apprend tout simplement au lycée. Souvent, on voit des cours d'éducation civique et citoyenne et derrière, on ne met pas forcément en pratique ou alors on le met en pratique quelques années plus tard. Et donc, on n'a pas dans les mains le pouvoir qu'on nous propose. Et moi, je trouve justement que les citoyens doivent être éclairés le plus vite possible et doivent pouvoir voter quand ils le souhaitent. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes vont voter. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça va instaurer un positionnement global des jeunes. De 16 à 18 ans, ça ne sera pas le cas. En l'occurrence, celles et ceux qui vont vouloir voter iront voter. Et celles et ceux qui ne veulent pas aller voter n'iront pas voter comme n'importe quel citoyen de plus de 18 ans. En fait, je pense que le risque, souvent qu'on dit oui, mais les jeunes vont voter plus à gauche, ou les jeunes vont voter, en l'occurrence, là, on voit quand même dans certaines études qu'une certaine population de jeunes commence à voter de plus en plus extrême droite. Je pense que ça, c'est un biais sociologique, un biais d'études énorme, et qu'en fait, les jeunes de 16 à 18 ans sont comme la population assez globale. On doit leur donner à la fois le droit de s'exprimer, puisque c'est quand même eux qui préparent l'avenir, et en même temps, s'ils ne veulent pas s'exprimer, ils n'iront pas voter. En fait, je pense que le débat actuel de se dire est-ce que les jeunes vont voter dès 16 ans, alors même que le droit de vote n'est pas obligatoire, je suis pour. Une fois que le droit de vote sera obligatoire, si jamais on le rend obligatoire, à ce moment-là, on pourra se reposer la question de quel âge exactement on met, etc. Mais voilà, je suis vraiment pour le droit de vote à 16 ans, pour pouvoir éclairer les citoyens le plus vite possible.
C'était Aurore Pajot.
Et merci à elle d'avoir témoigné et de nous avoir donné son avis.
En parlant d'adolescents, voici un sujet qui les concerne, les réseaux sociaux. Dernièrement, une proposition de loi portée par Laure Miller vise à interdire en France les réseaux aux moins de 15 ans. Qu'en pensez-vous ?
Bon, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'il y a tellement du danger sur les réseaux sociaux actuellement que je suis pour.
Bah, moi, je trouve que c'est bien, même c'est important. Parce que en fait, pour les moins de 15 ans, on ouvre une porte qui n'est pas... C'est une porte que même nous, les adultes, on ne connaît pas. Donc, s'il n'y a pas une surveillance, c'est très dangereux pour les enfants à cet âge-là.
Ben, je pense qu'il y aurait peut-être des contrôles à faire parce que c'est vrai que les ados sont souvent confrontés au réseau. Et ça peut amener à des dérives, le harcèlement scolaire, etc. Moi, je trouve que oui, il y a besoin d'une protection à ce niveau-là.
J'en pense que du bien. Parce que, comme vous le savez sûrement, je suis enseignante et je trouve que les réseaux pour les moins de 15 ans, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce que je trouve que ça influence beaucoup les enfants sur des choses qui ne sont pas de leur âge. Et ils sont mis face à des images qui peuvent leur faire beaucoup de mal.
Et comment vous pensez qu'ils vont bloquer l'accès justement aux moins de 15 ans si jamais la loi vient à être votée et acceptée ?
J'espère en soutien avec les parents qui collaborent.
Ah bah ça, je sais pas comment, parce que c'est vrai que ça va être un peu compliqué s'il n'y a pas en fait un suivi, même si c'est interdit à l'école. Est-ce que ça va être à la maison pareil ? Donc il y aura toujours des fuites, donc il faut suivre et voir comment on peut faire pour que ça soit fait jusqu'au bout.
Ben, c'est ça le problème, je trouve que c'est un peu compliqué à mettre en place. Ben, on va dire les parents peuvent justement essayer de limiter ça, mais bon, après ils ont accès à l'extérieur de la famille, donc sur internet, donc c'est un peu compliqué quoi.
Je ne me suis pas vraiment renseignée, mais je pense que ce sera peut-être comme en Australie, où il y a eu des blocages, des filtres, je ne sais pas comment ça marche, mais j'espère que ce sera qu'ils s'inspireront de l'Australie.
Une onde de choc parcourt actuellement la communauté scientifique après la fuite de documents classifiés attribués à une coalition secrète de chercheurs issus de plusieurs grandes institutions internationales. Ces documents, dont l'authenticité reste en cours de vérification, avancent une hypothèse stupéfiante. Les chats domestiques ne seraient pas des animaux terrestres, mais des entités d'origine extraterrestre envoyées sur Terre il y a plusieurs millénaires.
Mais non.
Moi, je les savais.
un extrait du document affirme « Le chat domestique semble avoir été conçu, non pas évolué. Sa présence sur Terre coïncide avec des périodes d'activité astronomique inhabituelles. » Étrange corrélation, n'est-ce pas ? Les scientifiques pointent également du doigt des comportements étranges observés chez les chats. Leur capacité à fixer des zones vides, comme s'ils percevaient des choses invisibles à l'œil humain. Leur habitude de se réveiller en pleine nuit pour se déplacer silencieusement. Leur réaction parfois imprévisible, alternant entre affection extrême et indifférence totale. Ces éléments seraient, selon l'étude, des signes d'une activité d'observation constante. Les chats collecteraient des données sur les humains, leur environnement et leurs habitudes.
Mais oui, mais c'est ça !
Le rapport va encore plus loin. Les chats seraient équipés d'un système biologique permettant de transmettre des informations à distance, le fameux ronronnement. Il pourrait en réalité être une forme de signal codé, utilisé pour communiquer avec une intelligence située hors de notre planète. Certains chercheurs évoquent même l'hypothèse que les chats ne dorment pas réellement, mais entrent dans un état de veille active, leur permettant de traiter et transmettre les données accumulées.
C'est sûr.
Les autorités scientifiques appellent à la prudence. Aucun organisme officiel n'a confirmé cette information et plusieurs experts parlent déjà d'une théorie hautement spéculative, voire d'une désinformation élaborée. Cependant, certains gouvernements auraient secrètement lancé des programmes d'observation renforcés, visant les chats domestiques. Faut-il voir son chat différemment ? Est-il simplement un compagnon affectueux ou un observateur venu d'ailleurs ? Une chose est certaine, si cette théorie s'avère vraie, alors les chats ne nous auraient jamais vraiment appartenu. Ils nous observent, et peut-être depuis toujours.
Vous avez raison, c'est les gouvernements. Tout ça pour oublier les Epstein Files, c'est lamentable.
Fin de transmission.